Chapitre 3. Jane se réveilla à 4h04, se doucha, s'habilla et s'installa à la petite table ronde afin de se pencher sur les rapports des médecins légistes consacrés au suicide dans les 32 secteurs qui l'intéressaient. 4 grandes villes, 12 villes moyennes, 8 banlieues et 8 zones moins peuplées dont les communes de taille modeste étaient placées sous la juridiction d'un seul légiste. Chaque dossier comportait des photos du corps tel qu'il avait été découvert. Elle avait beau s'appliquer à ne pas les regarder, l'esprit rebelle aux instincts primaires qui sommeillent dans chaque être humain poussait ses yeux à la trahir. Techniquement, la loi contraignait les autorités à pratiquer une autopsie en cas de suicide, mais la plupart des juridictions laissaient le légiste libre de s'en dispenser lorsque les circonstances ne laissaient pas de place au doute. Les individus abattus par un flic, une mort voisine du suicide, faisaient systématiquement l'objet d'une autopsie du fait de la curiosité des médias et de la possibilité d'un procès. À l'inverse, le suicide d'une personne dépressive ayant fait plusieurs tentatives par le passé entraînait une simple prise de sang afin de détecter la présence éventuelle de drogue. Le corps était soumis à un examen visuel poussé afin de chercher des traces de violence. Mais si rien ne permettait de penser qu'il pouvait s'agir d'un meurtre, le légiste procédait rarement à la dissection des organes internes. Jane fit 3 découvertes intéressantes en examinant des dossiers émanant de 2 grandes villes, New York et Los Angeles. Tout d'abord, le nombre de suicidés sains de corps et d'esprit, disposant d'une famille unie et d'un métier stable, était plus élevé que dans le reste du pays. Le phénomène était si marquant que les médecins légistes le notaient souvent dans leurs rapports. Deuxième anomalie, le procureur de l'État de New York, en accord avec son collègue de la ville de New York, avait défini de nouvelles normes encourageant les médecins légistes à se contenter de tests toxicologiques et d'un examen superficiel du corps pour des raisons budgétaires et de sous-effectifs. Ces instructions dérangeaient de nombreux légistes qui en faisaient état dans leurs rapports de façon à ne pas être accusés de négligence le cas échéant. Troisièmement, certains légistes californiens s'offusquaient que le procureur général de l'État ait invoqué l'année précédente des coupes budgétaires et le manque de personnel pour promulguer une ordonnance, et non de simples recommandations comme à New York, menaçant de supprimer les subventions aux communes et aux comtés dont les médecins légistes s'entêtaient à vouloir pratiquer des autopsies dans les cas où rien ne permet de soupçonner un assassinat, un meurtre ou un homicide involontaire. Officiellement, cette mesure affichait la volonté des autorités de se concentrer sur le nombre croissant de meurtres liés aux gangs ou au terrorisme. Plusieurs médecins légistes faisaient référence à cette ordonnance lorsqu'ils ne l'annexaient pas tout simplement à leur rapport de façon à se protéger. L'accroissement récent du nombre des fonctionnaires venait pourtant contredire le manque de personnel invoqué. Si Jane se hasardait à partager ses soupçons, on ne manquerait pas de l'accuser de paranoïa, aussi sûrement que Esther Prine, l'héroïne du roman de Nathaniel Hawthorne, avait été marquée au fer d'une lettre écarlate. Elle ne pouvait pourtant s'empêcher de soupçonner les procureurs généraux des 2 États les plus importants du pays de vouloir dissimuler l'augmentation des suicides chez les individus les moins susceptibles de mettre fin à leurs jours. Qui pouvait bien se trouver derrière une telle manœuvre? Les procureurs pouvaient-ils connaître les raisons de cette épidémie récente? Si une entreprise de biotechnologie et le gouvernement étaient impliqués dans un tel projet, quelle pouvait être leur motivation? Cette vague de suicides relevait-elle d'un effet secondaire inattendu, ou bien s'agissait-il d'un processus calculé? Autant de questions qui lui donnaient la chair de poule et la glaçaient au plus profond d'elle-même. Elle se rendit dans la salle de bain, où elle savait pouvoir trouver un mug, des sachets de café instantané et une bouilloire électrique bon marché. Elle mélangea 2 sachets dans de l'eau brûlante et arpenta la chambre en buvant le breuvage à petites gorgées sans parvenir à se réchauffer.